Auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue au forum du studio Kalangou dans une présentation de Balkissa Amidou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés en direct par 34 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. À Difa, vous nous suivrez sur Anfani FM 100 MHz, à Ingingimi sur Dilarem FM 99 MHz, à Kabalewa sur Mambio FM 99 MHz, à Maïna Sarwa sur Mangari 95.1 MHz, notre page Facebook est Studio Kalangou, notre site internet est studiokalangou.org. Vous pouvez aussi nous suivre sur WhatsApp. Le forum du Studio Kalangou est un espace d'échange, de débat, d'éducation, d'information et de sensibilisation à travers lequel des personnes ressources apportent des réponses aux préoccupations des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la radio Anfani de Difa, une des 34 radios partenaires du Studio Kalangou. La lutte contre le terrorisme, avancée significative et impact sur les activités économiques et sociales de la région de Difa, c'est la thématique du jour dans le cadre de la décolonisation périodique du forum du Studio Kalangou, une démarche de proximité qui permet de donner la parole aux Nigériens et auditeurs du Niger profond. Dans la région de Difa, zone frontalière avec le Nigeria, est depuis 2015 exposée aux attaques de la nébuleuse Boko Haram. C'est dans cette optique que la région a été classée comme zone à risque à cause de l'insécurité récurrente. C'est pourquoi le gouvernement a décrété l'état d'urgence dans cette partie du Niger en vue de réduire considérablement les risques avec l'espoir de l'enrayer totalement. Pour débattre de cette question, nous sommes dans le studio de la radio Anfani avec M. Yahaya Wodi, secrétaire général du gouvernorat de Difa. M. Madou Boukar, secrétaire général de la mairie de Difa. Mme Binta Madou, représentante des associations féminines de Difa. Monsieur Kakatouda, représentant le collectif des organisations de la société civile de la région de Difa. Merci d'avoir accepté l'invitation du studio Kalangou. Comme annoncé, le forum du studio Kalangou porte sur la question de la lutte contre le terrorisme, avancée significative et impact sur les activités économiques et sociales de la région de Difa. Monsieur Yahaya Wodi, veuillez nous faire le point de la situation actuelle de la région, ce qui a été maîtrisé, les dégâts et victimes recensées, le nombre de repentis ainsi que les procès.
Mais nous allons passer aux impacts, comme vous l'avez demandé, aux impacts constatés sur les activités économiques. Il faut reconnaître que les attaques perpétrées par Boko Haram ont obligé les populations à se déplacer. Il y a eu un mouvement massif de populations qui ont quitté les zones agricoles pour se retrouver dans des sites qu'ils n'ont pas choisis pour ne pas éviter les actes criminels. Donc c'est les zones favorables à l'agriculture, c'est généralement le bord de la Komadougou-Yobi et au niveau du lac Tchad. C'était des endroits de prédiction pour le Boko Haram et les populations ont quitté ces zones-là pour se retrouver maintenant comme déplacés ou retournés ou réfugiés. On les approche plus de la ville à l'abri de Boko Haram. Ce qui veut dire que la production doit baisser nécessairement. Le pâturage aussi, parce que les acteurs de l'économie, c'est les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs, ici en tout cas à Difa. Nous connaissons la célébrité de Difa dans sa production du poivron, la pêche et même l'agriculture au niveau du lac Tchad. Ce qui fait que les activités ont eu, il y a eu un impact négatif sur les activités économiques. C'est parti jusqu'à fermer certains marchés. Or, le marché fermé, cela veut dire qu'il n'y a plus d'activité commerciale, plus d'activité d'achat et de vente. Nous avons effectivement fermé le marché de Kinjendi, Ouaragou, dans la commune rurale de Geskerou et de Gagamari. Donc, elles ont été fermées parce que c'était des lieux d'approvisionnement de Boko Haram. Ça a été fermé pour couper à Boko Haram, n'est-ce pas, les vivres, pour permettre aux populations de vaquer à ces préoccupations. Parce que tant que les Boko Haram se trouvent dans de bonnes conditions, ils vont continuer à mener des attaques criminelles. Donc, c'est pourquoi nous avons fermé ces marchés. Et dès qu'il y a fermeture des marchés, il n'y a plus d'achat et de vente, il n'y a plus de rations commerciales. Vous voyez, cela doit avoir nécessairement un impact sur l'économie. La production a baissé. Que ce soit celle du poivron, du riz, du sorgho, de tout ce que vous savez comme céréales qui se produisent ici par la population de Difa. Aussi, pour revenir sur ce que vous m'avez demandé pour les victimes, parce que je vous ai dit que je vais d'abord parler des impacts économiques avant de revenir ce soir. Nous avons les personnes victimes de Boko Haram. Actuellement, le dernier recensement donne 249 813 personnes, 118 868 réfugiés, 25 731 retournés et 104 288 déplacés internes. Ici, je m'explique. Qu'est-ce qu'on appelle réfugié? Réfugié, c'est sur la Convention des Nations Unies ou bien de HCR. C'est quelqu'un qui, pour des raisons, pour sauver sa vie, n'est-ce pas, quitte un lieu pour un autre. Donc, si c'est confirmé, il est pris en charge par tout pays signataire de cette convention-là. C'est le cas des chefs des Nigériens qui sont là. Ils sont au nombre de 118 868. Et c'est une dynamique. Ils augmentent presque chaque jour. Et les retournés, les 25 731 retournés, c'est des Nigériens, en fait, qui ont quitté le Nigeria, donc pour d'autres activités ou, comme on dit, exode, ou bien pour aller chercher du travail. Ils sont partis s'installer au Nigeria. Après 5 ans, 10 ans, 15 ans, donc la menace Boko Haram les a fait retourner, n'est-ce pas, au Niger. Donc ils sont au nombre de 25 131. Et les déplacés internes, c'est des populations, n'est-ce pas, autochtones, qui vivent la menace qui pèse sur eux. Donc on cherche à les déplacer de leur zone de travail, on cherche à les rapprocher à l'intérieur, n'est-ce pas, de la région, du département de Difa ou un autre lieu enfin, approprié, pour qu'il échappe, n'est-ce pas, aux attaques de Boko Haram.
Et qu'en est-il de la collaboration des habitants avec les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme?
Les habitants, les populations collaborent bien avec les FDF. Pour preuve, les dernières attaques de kamikazes, là, c'est la population qui a déclenché l'explosion de leurs bombes. Parce qu'ils ont compris que c'est des gens qui ne sont pas normaux. Ils sont en train de se balader dans le quartier. Ils ont compris par leur démarche. Parce que quelqu'un qui prend une charge, il n'a pas la même démarche que quelqu'un qui est simple. Donc on voit des gens qui marchent plus ou moins comme des robots. Donc ils ont compris que c'est des gens mal intentionnés. C'est suite à des questionnaires. Ils ont compris qu'ils ont été donc démasqués. Il y a même quelqu'un qui a promis d'informer les forces de défense et de sécurité. Et c'est comme ça qu'ils ont compris qu'ils sont dévoilés, donc ils ont mené les attaques. Il y a la première femme qui a embrassé le gars qui l'a éclairé avec une lampe torche, donc ils sont morts ensemble. Et la deuxième femme a explosé et la troisième personne, c'est comme ça qu'ils ont, heureusement parce qu'ils sont morts. Parce que c'était pas leur cible. Leur cible, c'est peut-être la mosquée où les gens priaient qui aiment les, ou bien le marché de 4, parce que c'est un lundi. Ils allaient peut-être attaquer le marché de Difa. Donc Dieu merci, ils n'ont pas atteint leur cible parce que la catastrophe serait beaucoup plus grande. Ils allaient faire beaucoup plus de victimes. Donc, ils collaborent bien parce qu'ils donnent régulièrement les informations, que ce soit au niveau de la frontière ou bien ici, dès qu'ils voient un cas suspect, ils ne tardent pas à dénoncer, à informer les autorités que voilà, nous avons vu telle chose et nous voulons que les forces de défense ou de la police ou la gendarmerie se présentent pour voir ce que c'est. Parce qu'ils ne peuvent pas, maintenant, compte tenu de ce qui s'est passé, nous avons prié d'éviter tout rapprochement avec ces gens-là. Nous sommes allés jusqu'à leur donner une ligne verte, c'est-à-dire ce qui éviterait leur dépense. C'est-à-dire, à crédit, vous pouvez contacter les hôtels avec la ligne verte pour dire que voilà, à tel endroit, voilà, nous avons un individu ou une femme ou un homme qui est suspect, qui a tel comportement, il est de telle taille, il a tel accoutrement. Donne au maximum d'informations, de détails pour ne pas commettre l'erreur après son départ de mettre la main sur un innocent.
Et quelles sont les difficultés rencontrées pour plus d'efficacité dans le combat contre Boko Haram?
Les difficultés rencontrées, c'est que ce n'est pas les gens de combat conventionnels. Voilà, ils ont leur base, ils attaquent ou les attaquent. Ils ont toujours surpris les gens. C'est-à-dire, c'est des gens, même s'il y a une opération de ratissage à effectuer, c'est des gens qui se cachent dans des arbres. Où ils mettent les arbres, ils se cachent là où ils sont invisibles par l'aviation. Cela veut dire que même s'il y a un attroupement, on peut être informé de leur attroupement à tel endroit. Ils sont au nombre de 40 ou 50, même si on n'a pas le temps peut-être de les compter. Quand on voit le nombre, on évalue un peu. On dit qu'ils sont 40, ils sont 30 ou 50. Mais dès que les FDS sont informés pour se rendre sur le lieu, déjà le temps là, ils s'éparpillent. Ils se mettent en groupe de 2, de 3 pour disparaître. C'est ça les difficultés. Sinon, si c'est un combat conventionnel bien connu, sans cache-cache, la victoire serait déjà réussie. Mais c'est cette tactique qu'ils ont, de changer de tactique, n'est-ce pas?
Le mode opératoire,
voilà. Ils changent, n'est-ce pas? Demain, ils changent encore. Et surtout, comme je l'ai dit, la population collabore, mais toujours est-il qu'on n'empêche pas qu'ils ont des complices, souvent même au niveau des réfugiés, parce qu'ils ont leurs femmes. Pris réfugiés par les HCR, nous, on ne peut rien faire parce qu'on a signé des conventions. Mais cela n'empêche pas qu'ils introduisent leurs femmes, qu'ils les informent au fur et à mesure, qu'ils donnent des informations sur le mouvement des troupes ou bien la présence de tel ou tel individu ou telle force de défense à tel endroit. C'est pourquoi, vu leur attaque souvent, leur mode opératoire, ils ont souvent des informations claires, nettes par rapport à telle cible. C'est pourquoi ils attaquent et rapidement, de manière précipité, une fois ils se reprennent et ils s'en vont.
Et quels sont les défis dans le cadre de la paix? Les familles endeuillées acceptent-elles de pardonner?
Lorsque j'étais nouvellement arrivé, donc j'ai trouvé plusieurs missionnaires désignés par le gouverneur ici au niveau des départements surtout impactés, c'est-à-dire Mene Soroa, Bosso, Gingimi et Difa. Parce que Goudemaria et Ngouti ne sont pas tellement voyés. Donc les préfets qui signent ces zones-là, dans le cadre de ce demande de ce pardon avec les leaders religieux qui relatent les versets du Coran et les hadiths pour parler en fait des valeurs du pardon, c'est-à-dire de la valeur de quelqu'un qui pardonne. Donc, il y en a qui pardonnent, évidemment. Il y en a qui acceptent le pardon, mais d'autres, vraiment, ne pardonnent pas. D'autres se disent, monsieur Antel, ici devant moi, on a égorgé mon père ou mon fils, et on a égorgé ma femme, parce qu'elle a refusé que sa fille, parce qu'ils prennent des filles souvent de force. Quand tu refuses, on t'égorge. Il faut le dire qu'il y a des éléments de Boko Haram, des questions qui ont rejoint Boko Haram malgré eux. Mais il y en a qui sont partis par conviction d'aller au paradis, c'est le maire. Mais il y en a qui sont pris de force. Donc, ils sont même victimes de Boko Haram. Parce qu'ils sont là-bas en brigade de force.
Ils sont enrôlés
de force. Si tu refuses, on vient notamment évoluer ou ton père ou ta mère. Et ça n'empêche qu'on aille encore avec toi.
Nous allons revenir vers vous le temps de prendre notre acteur de la société civile. Et comment la population de Difa vit cette situation d'insécurité, les libertés de mouvement, de réunion, d'expression? Est-ce que vous menez votre vie associative tranquillement?
Il y a les moments où on ne nous laisse pas faire vraiment correctement notre travail. Et puis, comme vous savez, vraiment les trucs des associations et sociétés civiles, ici au niveau national même, ce n'est pas permis de faire toutes les activités. À plus forte raison, la région concernée. Donc, on fait de nos mieux. On ne peut pas dire qu'il nous empêche de faire de toutes activités.
Et la population, comment elle vit cette situation d'insécurité?
Bon, la population, elle est meurtrie depuis. Donc, vraiment, les autorités font de leur mieux pour garder vraiment la population en éthique, mais avec la peur, truc d'insécurité là. Donc vraiment la population jusqu'à présent, elle n'est pas relevée vraiment de cette peur là.
Quel impact l'état d'urgence décrété a-t-il sur les activités économiques et sociales de la région?
L'état d'urgence n'a pas d'impact, mais les décisions qu'on comprend. L'état d'urgence en tant que tel, elle est là pour protéger la population de toute complicité et opération illégale. Donc, on ne peut pas dire que l'état d'urgence, ça a impact, mais il y a des décisions de l'état d'urgence qui ont d'impact pour la population. À ce qui concerne les activités agricoles, même les activités économiques.
Comment la population participe-t-elle à la lutte contre le terrorisme à Difa?
La population donne son contribution chaque fois en alertant les FDS, soit disant que tel endroit et tel endroit, il peut être attaqué ou bien il peut avoir des informations indirectes. Oh oui, des informations que quelqu'un va les appeler de la brousse, soit disant qu'il dit que voilà, les gens là, ils ont passé de cette côté. Et puis maintenant, on peut informer nos FDS d'intervenir rapidement sur les lieux. Mais pour se préparer, les agents des FDS, pour se préparer, ça prend du temps avant qu'ils s'engagent d'aller donner leur appui à la population attaquée, à la localité attaquée. Donc vraiment, ça prend du temps. Avec tout ça, cela n'empêche que le gouvernement fait de son mieux.
Monsieur Yahaya Godi, est-ce que vous avez une réaction par rapport à son intervention?
Par rapport à ça, je vais même ajouter par rapport à ce qu'il a dit. C'est bien parce qu'effectivement, lorsque la population informe, n'est-ce pas, les FDS ou les autorités régionales, il y en a qui se disent qu'ils sont prêts à guider les FDS pour aller retrouver Boko Haram. C'est pour vous dire que c'est des gens vraiment engagés. La population est vraiment engagée. Je vais au-delà, Mme Balkissa, pour vous parler aussi des impacts négatifs sur l'école. Parce que tout ce qui détruit l'école détruit l'avenir d'un pays. Donc, par rapport à l'école, donc, les attaques à répétition là, ont eu un impact certes sur l'école, surtout ici dans la région de Difa. Et ça a causé une insuffisance d'enseignants. Je dois vous rappeler que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des enseignants qui sont égorgés. Il y a eu un exemple ici à l'Hadji Manéry. Ils ont trouvé un enseignant avec des livres. Ils ont dit qu'il est en train de la mécréance. Ils l'ont attaché, ils l'ont égorgé. Donc, vous voyez ça? C'est ça qui crée une psychose pour les enseignants. Mais heureusement, ici, les enseignants, quand même, ont pu garder leur sang-froid. Ils ont continué à enseigner. Mais vous voyez ce que ça pèse comme psychose. Tu vois ton ami qui est là à côté de toi, on vient l'égorger. Ils sont venus au nombre de 7 et l'ont égorgé. Ils sont retournés, ils ont traversé la Koumadougou. Et nous avons aussi, par rapport à l'école là, en 2018, on a un nombre de 80 390 enfants ciblés, n'est-ce pas, sur un besoin de 14 854 à l'âge scolaire, à peine 70%. Donc actuellement, notre région a un besoin de 348 enseignants. Parce que avec cette psychose, et vous savez aussi, il y a un renvoi des enseignants non qualifiés. Sur 2940, il y a eu 783 renvoyés, soit 25% de la population enseignante qui ont été remerciés. Il y a actuellement des approches opérationnelles. En 2017, par exemple, avec focus sur la sécurité des écoles, parce qu'on a voulu, on a cherché à sécuriser les écoles. Donc ce qu'on appelle plan de réponse, préparation, urgence, protection transversale et qualité des enseignements, formation du personnel éducatif. Donc ça, c'est des approches opérationnelles qui permettent maintenant de rattraper peut-être ce qui était perdu, voilà, si on veut l'appeler comme ça. Donc la direction régionale de l'enseignement a développé l'approche école sûre. C'est une réflexion qui est centrée sur la sécurité, comme je voulais, de l'école, en créant un groupe de travail dénommé école sûre pour des analyses et des travaux de plaidoyer solide. Ceci étant, je dois aussi souligner que les enseignants, inspecteurs, tout grade confondu, acceptent aussi les enfants des réfugiés. Quand ils viennent, ils sont obligés de les prendre en charge. C'est pourquoi souvent vous avez une classe qui commence avec peut-être 25-30 élèves et vous la trouvez avant la fin de l'année, un effectif double ou triple. C'est pour vous dire que les attaques ont eu beaucoup d'impact, n'est-ce pas, sur le code de la région de Diffa. Vraiment, je profite de l'occasion pour remercier les enseignants qui ont pu garder le courage et qui continuent encore à enseigner. Qui prennent même souvent des... Parce qu'à défaut de Kabuka maintenant, parce que les motos sont interdites, mais ils louent des véhicules dans leur salaire et les payent à la fin du mois pour aller assurer cette noble tâche.
Monsieur le gouvernement, quelles sont les réelles avancées enregistrées en matière de lutte contre le terrorisme à Diffa?
Les réelles avancées, c'est que les différentes interventions des FDS ont quand même eu à détruire leur base. Parce qu'actuellement, Boko Haram n'a pas de base, il se réfugie ou dans des arbres, dans des forêts cachées, ou bien dans des îles. N'eût été même la complicité de certains, n'est-ce pas, même les îles seraient nettoyées. Parce que chaque fois qu'il y a une opération effectuée, n'est-ce pas, le FDS trouve la zone bondée d'animaux. Donc ils ne peuvent pas faire des opérations parce qu'ils vont tuer des animaux. Sinon, on a demandé aux éleveurs de tout faire pour quitter les lieux, pour remonter vers le nord, pour libérer ces zones. Parce qu'en fait, ils profitent de ces éleveurs-là. Comme vous voyez quelqu'un, un éleveur dans les îles, il collabore avec Boko Haram. Même si ce n'est pas Boko Haram, parce qu'il paye ce qu'on appelle des dîmes, voire des zakat. Ils prennent leur bétail en compensation de les laisser libres de faire le pâturage. Et l'en est de même pour les pêcheurs, qui paient aussi des quantités de boissons pour rester, n'est-ce pas, collaborer avec eux, pour laisser travailler avec eux, pêcher, avec ou bien faire le pâturage. Sinon, même les îles seraient nettoyées. Donc, ça veut dire que l'avancée est qu'ils ne sont pas tranquilles. Hein. N'eût été ce mode opérateur insidieux qu'ils utilisent sur information pour aller poser des actes et rapidement pour replier.
Et quelles les actions entreprises qui ont permis de booster cette lutte contre le terrorisme? Mais
c'est des actions conjointes. Parce que vous ne pouvez pas savoir que nous collaborons avec ce qu'on appelle les FMM, les Forces Multinationales Mixtes. Donc, on a un général ici qui est le chef des centres d'opération. Donc, chaque fois qu'il y a une opération à faire, il y a une collaboration ou avec le Niger et le Nigeria, c'est ou bien, n'est-ce pas, s'il y a des cas suspects, tout déplacement des véhicules s'est identifié. Alors, il demande tel endroit, il y a tel nombre de véhicules, telle couleur, parce que même la nuit, il voit. Qu'en est-il? Parce qu'il faut qu'on les informe de placement. Sinon, si ce qu'on appelle l'état-major tactile n'a pas donné de bonnes informations, donc il frappe. C'est cette collaboration qui permet d'avancer, que ce soit avec les Tchadiens, les Nigériens, les Nigériens et nos forces de défense et de sécurité. Cette collaboration qui est efficace, nous souhaiterons toujours qu'il y ait souvent des opérations bien ciblées, bien conjointes et simultanées. Parce que souvent, au moment où les forces de défense nigériennes font des assistages au niveau de la Koumadougou, de l'autre côté, les Boko Haram se replient. Ils se replient voilà, vers le Niger. Tout récemment, ils ont envoyé leurs femmes et leurs enfants là, à côté. Là. Donc, nous avons compris que c'est une stratégie de déplacer leur base lorsque les militaires du Nigeria étaient en train de les tuer. Donc, on a compris qu'ils ont déplacé leur base parce qu'ils sont sûrs que leurs femmes seront prises en charge par les humanitaires. C'est ça qui fait parce que les humanitaires étaient déjà là-bas en train de recenser ces femmes-là. C'est des milliers avec les enfants. Ils sont nombreux. Donc nous, on a choisi une opération. On a informé l'état-major tactique du Nigeria pour leur dire de retourner au Nigeria. Parce que s'il y a un déplacement à faire, c'est pas d'un pays à un autre. C'est pas l'État qui les a envoyés, c'est leur mari, Boko Haram, qui les ont initiés, qui les ont guidés pour venir au Niger, sachant qu'elles seront prises en charge par les Nigériens et les humanitaires. Nous avons compris cela après, parce que nous avons convoqué les chefs de village qu'on appelle Kanama au Niger, Kanama 1, Kanama 2, et le chef de village nigérien qui les a accueillis. À travers nos discussions, un chef de village nigérien disait en Kanuri que toi et toi, vos enfants sont au front, sont avec Boko Haram. Donc après traduction, le préfet m'a traduit, j'ai compris que ces gens-là, ils sont dangereux. Nous avons donc commun accord avec Comozone décidé de leur dire de retourner. Donc de manière passive, sans qu'il y ait problème, parce qu'ils vont être dangereux pour la population innocente, parce qu'ils vont servir de base pour que Boko Haram nous attaque et se replie. Parce que ce qui cause tout ce problème souvent, c'est la proximité des frontières, la porosité aussi des frontières. En Boko Haram, souvent, deux villages peuvent se retrouver, un du Nigeria, un du Niger, à 500 mètres, maximum 1 km. Quand vous prenez la population de Kablewa, c'est la plupart des populations de Geshegar, du Nigeria, la plupart. Donc, ce qui veut dire que c'est des situations qu'il faut suivre de près pour éviter des erreurs, parce que même si vous êtes un réfugié, c'est pas évident que vous soyez un réfugié à 100% sans être complice de Boko Haram. C'est comme ça que nous gérons la situation avec
donc,
les autres.
Le brassage des populations qui ne permet pas de mener des actions concrètes.
Oui, là-bas, au niveau des îles, c'est la présence de nos éleveurs avec leur bêta qui fait que souvent les opérations sont limitées. Ils se plaignent même, ils disent voilà, on a voulu une telle opération, mais malheureusement, nous avons trouvé de telle zone à telle zone, tout est volé d'animaux, sont en train de perdre, vous savez, avec le problème de pâturage là. Donc, ils sont repliés vers le lac Tchad, c'est là-bas qu'il y a du pâturage. Et là-bas, c'est un pacte avec Boko Haram. Vous restez, voilà ce qu'on vous impose, mais vous êtes libre de pâturer à tout moment. Vous refusez, vous partez, ou bien on vous tue, on prend votre bétail. C'est ça.
Monsieur le SG de la mairie, la lutte contre le terrorisme, c'est aussi la prise en charge des déplacés de Boko Haram. Quels sont les chiffres et les progrès réalisés dans la prise en charge de ces groupes?
Effectivement, madame, avant de parler des chiffres, permettez-moi de dire que lorsqu'il y a eu donc ces événements, les exactions de Boko Haram, donc en direction du Niger, je me rappelle, c'était dans les années 2015, donc lorsqu'il y a eu l'infiltration au niveau de Bousso et de Diffa. Donc c'était des milliers et des milliers de déplacés qui sont venus à Diffa. Et lorsqu'ils sont venus, il n'y avait pas les humanitaires, c'est les populations qui les avaient pris en charge. Donc on était débordé la commune, puisque c'est la ville qui est le chef-lieu de région, le chef de département, le chef-lieu de la commune, qui est vraiment le lieu le mieux indiqué pour que ces personnes-là viennent effectivement et se sécuriser. Après, donc, lorsqu'il y a eu l'appel donc du gouvernement pour qu'on vienne en aide à ces populations, c'est à ce stade-là que les humanitaires sont venus. Avant qu'ils ne viennent, je puisse vous dire, madame, que c'est les populations elles-mêmes qui étaient les humanitaires, les premiers humanitaires à prendre en charge ces populations-là. Vous n'êtes pas sans savoir que, n'eût été ces questions de frontières, c'était les mêmes populations. C'est les mêmes populations, il n'y a pas de différence. Quand vous prenez ici la région de Diffa, c'est l'empire du Kanem pour nous. Donc c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes, j'allais dire, ethnies, qui sont liés à la même donc, communauté de destin. Cela veut dire qu'au titre de la commune, on n'a pas de chiffres exacts à donner parce que dans le temps, vraiment, on est un peu débordé. On est un peu débordé et il se trouve qu'il y a une certaine difficulté quand même de recenser au rythme où déplacer les réfugiés venaient à Diffa à ce temps-là parce que c'était une grande euphorie. C'était difficile d'avoir des chiffres. Maintenant, avec donc, le temps, il y a eu des structures qui ont été mises en place pour aller faire donc, des statistiques. Donc nous-mêmes, nos statistiques se réfèrent aux statistiques du niveau régional. Donc, c'est ça pour vous dire que c'est ce que vient de dire le secrétaire général. C'est exactement donc la même situation parce que c'est difficile au niveau communal par rapport à nos moyens, par rapport à ce qu'on dispose comme logistique et autres, faire un diagnostic ou une statistique quand même qui puisse nous faire comprendre le nombre de déplacés de retour parce que c'était une débandade. Et ces gens-là, lorsqu'ils sont venus, d'autres sont dans des maisons parce que c'est les parents, ils sont venus chez les parents, d'autres sont dans des sites donc qu'on avait créés spontanément. Donc,
et peut-on espérer un retour définitif de la paix dans cette partie reculée du Niger et à quel prix?
Oui, on peut espérer le retour d'une accalmie, j'allais dire. Parce que vous savez, à mon sens, cette situation n'aurait pas pris tout ce temps-là. Mais au rythme où nous avançons, donc nous osons espérer que ça va encore durer. C'est pas un sujet, mais c'est comme ça. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez remarqué, malgré les multiples efforts fournis de part et d'autre, que ce soit du part du gouvernement à travers le FDS, que ce soit du part des leaders, donc les chefs traditionnels, les maires, ainsi de suite, cette situation n'est pas encore éradiquée totalement. Il y a eu donc beaucoup de rencontres là où donc les populations ont échangé avec les décideurs et quelque part il a été constaté qu'il y a toujours une complicité. Il y a une complicité. Il y a des efforts qui sont fournis, ça c'est remarquable, ça c'est reconnu, mais toujours est-il que ça finit pas. Il y a vraiment une certaine complicité qu'il faudrait démasquer afin de pouvoir jeter les jalons vraiment d'une reprise de la paix dans la ville de Diffa ou dans la région de Diffa. Le SG donc du gouvernement vient de
élucider tous ces aspects. Je pense que c'est une lutte commune ou en collaboration avec eux qu'on fait ces choses-là. Et j'ose espérer que de tout temps, on a dit tant qu'il y a la complicité c'est quoi? Il y a jusqu'à présent d'autres qui pensent que si tu dénonces, par exemple, un élément de Boko Haram, d'autres vont aller dire que c'est tel machin qui a dénoncé et ils vont venir vous tuer. Il y a toutes ces complicités-là. Mais au départ, quand vous avez remarqué, ici, la ville était même partie en exil, j'allais dire, les gens ont fui la ville. En 2015, je parle de la situation de 2015. En ce temps-là, il y a eu des explosifs qui sont éclatés au niveau du grand marché, au niveau du marché à céréales et autres. Il y a eu des pertes en vie humaine. Après, donc, lorsque l'armée est arrivée à contrôler la situation, en collaboration avec les autres forces d'intervention, il y a eu vraiment une avancée et les gens étaient revenus. Donc, lorsqu'ils étaient revenus, il y avait une certaine confiance qui a commencé à s'installer parce qu'ils ont compris au rythme où ils voulaient prendre la ville de Diffa parce que c'était vraiment un peu éminent qu'ils prennent la ville de Diffa puisqu'ils étaient venus même sur le pont qui relie donc le Niger au Nigeria qui est à 3 km ici. Mais lorsqu'on a poussé cette force, cette menace, à ce temps, les gens ont commencé à comprendre que vraiment, ils sont un peu rassurés qu'il y aura la calmie. Donc, c'est comme ça que les gens sont restés dans la ville. Et je puisse vous dire que madame, c'est un combat de longue haleine. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'aspects, de paramètres aujourd'hui qui ne font pas faire comprendre que la situation de Boko Haram va finir dans ces jours-là.
Monsieur Yahaya Godi, monsieur, vous avez une réaction par rapport à son intervention?
Par rapport à ça, dans le cadre, n'est-ce pas, des chiffres que vous avez, les progrès réalisés de la prise en charge de ces groupes, parce que tout à l'heure, je vous ai annoncé 249 883 personnes, c'est-à-dire tout statut confondu, réfugiés, déplacés, internes et retournés. Il faut le souligner que ces populations, souvent, ne restent pas sur place. Ils se déplacent. Il y a ce qu'on appelle des déplacements internes qui sont au large. Il y a ce qu'on appelle aussi des mouvements pendulaires. Ça veut dire quoi? Des sites de réfugiés. Quand les réfugiés apprennent qu'il y a distribution gratuite ou intervention des humanitaires à tel endroit, au Niger, ils se ruent, ils se précipitent. Et de l'autre côté de la frontière, si ils apprennent qu'il y a autre chose au Nigeria, c'est la même chose.
C'est une stratégie de survie qu'elle a.
De survie. Parce qu'il y en a donc ça qui fait souvent que, n'est-ce pas, on ne maîtrise pas les chiffres réels. Mais il faut dire que de manière globale, au niveau de la région de Diffa, près de la moitié de la population de Diffa, il y a 418 414 personnes qui ont besoin d'aide humanitaire en 2018, d'après le dernier recensement qu'on a fait avec les humanitaires, y compris les déplacés, les retournés et les populations. Parce qu'il faut dire que ce ne sont pas seulement les réfugiés ou déplacés qui sont vulnérables. Même la population autochtone, souvent leurs terres de culture sont occupées par des parents. Comme il a dit, c'est des parents. Vous ne pouvez pas faire une différence entre un Kanouri de Goudoumaria et celui de Diffa, comme vous le faites de Ouben Guingimi et Tchad. Vous voyez, ce qui fait qu'ils ont été accueillis, ils ont occupé donc des champs de culture. Donc, eux-mêmes, ils sont devenus vulnérables. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a 418 414 qui doivent être assistés. C'est pourquoi, nous, au niveau de la région, nous avons opté pour autre chose. C'est-à-dire de ne pas se cantonner à l'aide d'urgence qui consiste à assister, à nécessiter et de donner à manger. Comme on dit, quand vous donnez à quelqu'un du poisson, il va le manger, mais apprenez-le à pêcher. Nous sommes en train d'opter pour l'aide au développement. Que même si les ONG, les humanitaires quittent, il va rester quand même certaines choses. Voilà. Donc, il y a le renforcement des capacités ou bien certains matériaux, tels que si c'est l'agro-silvopastoral, ils vont laisser peut-être du matériel agricole et quelques connaissances qui seront données aux populations nécessiteuses. Quand vous donnez à manger à les acheter, c'est ça que nous sommes en train d'opter pour cette aide au développement. Et la plupart de ces projets-là, que ce soit pour DAF, Search for Common Ground, FAO, tous ceux qui nous assistent dans le cadre de la réinsertion des ex-combattants de Boko Haram et repentis de leur communauté d'origine ou communauté d'accueil, c'est ça que nous demandons. Donc, prévoyez des activités agro-silvopastorales et des formations, n'est-ce pas, avec une formation transversale dans le cadre de l'agriculture pour que, n'est-ce pas, ces gens-là cessent d'être vraiment nécessités, vulnérables, voilà. La réponse a ciblé 318 414 personnes réparties à travers 466 villages prioritaire. C'est-à-dire, si vous parlez de la situation que nous avons recensée ces derniers temps, parce que ici, je ne vous ai pas parlé du taux de couverture de ces groupes vulnérables, c'est 97%. Suite aux distributions additionnelles cash, cash for work, cash for transfer, tout ça là est vivre, réalisé par l'État et ses partenaires. Donc, il y a une couverture de 97% de ces populations vulnérables. Donc, c'est pourquoi je vous ai parlé de 318 414 personnes réparties à travers 466 villages qu'on a pu cibler prioritaires, sur lesquels 128 ont bénéficié de la réponse humanitaire et 338 constituent un gap théorique à combler. Donc, vous avez dit que toujours il y a du travail encore à faire, donc ce n'est pas encore fini. D'autres activités ont été menées dans d'autres secteurs comme l'eau, l'hygiène, assainissement, santé, etc. C'est-à-dire, au-delà de cette assistance humanitaire-là, il y a des activités qui sont menées, parce que même ceux qui veulent retourner chez eux, il y en a qui le demandent, ils veulent vraiment retourner chez eux. Mais nous, au niveau des autorités, que ce soit gouverneur, il faut s'adresser au préfet et au maire pour savoir, n'est-ce pas, certes, vous voulez retourner chez vous, mais quelqu'un qui quitte son village après 3 ans, même si c'est endur, ce n'est plus possible d'habiter. À toutes les maisons en Bonko. Et là aussi, il faut quand même, avant de retourner, créer des structures, n'est-ce pas, de base, telles que l'eau, la santé, l'école. Donc, il faut tout prévoir, ça. Donc, c'est pourquoi on leur dit vraiment de faire un effort de patience pour les patienter. Avec le temps, la calmie, on saura quelles sont les zones, n'est-ce pas, où la calmie s'est installée, où on peut, n'est-ce pas, retourner les populations avec l'aide des FDS qui vont assurer leur sécurité pour les faire retourner chez eux. Ils le demandent et c'est la condition sine qua non pour la reprise de la propriété de la région de Difa. Il faut que les gens, à un moment donné, commencent à rejoindre leur village ou leur localité abandonnée à cause de Boko Haram.
Madame Binta Madou, comment est-ce que vous percevez l'enrôlement des femmes et des enfants dans les conflits armés dans la région de Difa?
Vous savez, pas les conflits armés de la région de Difa. En tout cas, dans presque tous les conflits, j'allais dire, les femmes et les enfants tout, sont les plus touchés. Et pour ce qui est des cas précis de Difa, en tout cas, les femmes ont vécu cela dans leur chair. Parce que tout ce qu'on a eu à constater, c'est les femmes qui sont utilisées dans les actions de kamikazes. C'est les femmes qui sont utilisées. En tout cas, même les hommes qui viennent jouer le rôle des kamikazes, c'est déguisent en femme pour faire le rôle des kamikazes. Donc vous voyez, c'est un peu la femme qui est mise au devant de la scène dans cette affaire. Donc vraiment, les femmes le vivent dans leur chair. Parce que même les petites filles qu'on utilise sont toujours utilisées dans les trucs des kamikazes en même temps que les femmes. Et surtout les femmes, les jeunes filles, elles ont été embarquées dans cette affaire en tant qu'épouses des éléments de BH ou en tant que kamikazes. Donc c'est de cette manière que souvent les femmes sont enroulées dans cette affaire de conflit de Boko Haram, plus à le dire.
Il y a pratiquement un an que des femmes et des jeunes filles ont été enlevées au niveau du village de Ngalewa. Où est-ce qu'on en est avec cet événement?
En tout cas, pour l'instant, on est à l'écoute. Je parle sous le contrôle du CLSJ. En tout cas, à ma connaissance, on est là en train d'attendre les échos de ces jeunes, n'est-ce pas?
C'est ça.
Voilà. Donc, vraiment, c'est une situation qui est là, elle est déplorable. Les efforts ont été faits, les gens ont mené des actions pour pouvoir remédier à cela, mais malheureusement, on est dans le statu quo.
Ce que je peux ajouter, c'est que bon, y a certaines informations qu'on garde parce que
les sécuritaires,
parce que on est là-dessus quand même, les sociétés sont là-dessus. Ils ont appris qu'il y a 2 qui ont accouché, qu'il y a 2 qui sont mortes parmi les femmes là. Nous sommes là-dessus, nous sommes en train de parler avec certaines bonnes volontés qui ont commencé parce que eux-mêmes, ils ont demandé à ce que les parents de ces filles-là aillent pêcher là-bas. Ils ont dit non, de ne pas aller parce que vous avez nos filles là-bas entre vos mains. On ne peut pas aller se déplacer. Ils ont dit non, mais ceux qui sont ici sont en train de pêcher normalement. Ils disent eux, ils ne peuvent pas le faire parce que. Qu'est-ce qu'ils vont, pour quelles raisons vous avez nos enfants avec qui on va aller encore collaborer avec eux. Donc, c'est les dernières informations qu'on a reçues avec quelqu'un à qui ils ont confié leur présence et même sans être donné trop de détails, mais pour un peu cibler à quel endroit ils doivent être. Comme je vous l'ai dit, ils sont en train d'occuper les îles.
Et madame, nous allons revenir encore une fois de plus vers vous. Et quelles sont les actions que vous menez pour lutter contre cette pratique?
Bon, vous savez, madame, c'est une situation exceptionnelle, j'allais dire, parce que c'est pas une situation de conflit où vous avez en face l'ennemi avec qui vous pouvez négocier ou vous pouvez mener une action concrète. Donc, pour l'instant, on se limite à la sensibilisation des femmes, des enfants surtout, qui sont à la charge de nous, les mères. Parce que c'est surtout nos enfants qui sont embarqués dans cette affaire, que ce soit filles ou garçons. Les filles, souvent, elles sont emportées en tant qu'épouses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et les jeunes garçons sont embarqués en tant que combattants. Donc, c'est surtout les enfants qu'il faut vraiment sensibiliser, éduquer dans le sens de rester d'être en lien avec sa communauté et de ne pas emprunter un autre chemin qui puisse vraiment être irréversible.
Ce que je peux ajouter par rapport à ce que madame a dit, bon, nous avons félicité les femmes parce que suite à ces attaques kamikazes là, nous avons presque, le gouvernement a invité presque toutes les couches socio-professionnelles de DIFA. Chaque groupe a proposé de la manière par laquelle ils vont contribuer. Surtout les femmes ont même demandé d'abord au niveau des mosquées de former des vigiles parce qu'à un moment donné, les vigiles ont été supprimés. Mais ils ont repris, n'est-ce pas? Les imams et les femmes ont demandé à ce que les vigiles soient réhabilités et même s'il faut changer un autre accoutrement. Pour les femmes, voilà, les femmes peuvent donner des filles, des jeunes filles bien engagées pour en fait contrôle, pour un contrôle parce que vous apprenez dans certaines villes comment rentrer dans des mosquées pour faire beaucoup de victimes, des centaines. Donc c'est ça qu'il faut éviter. Ils ont demandé à ce que les vigiles soient formés par le FDS pour mener des contrôles systématiques au niveau des mosquées et nous avons pris l'engagement de le faire au niveau du gouvernorat avec le FDS. Nous attendons seulement la liste, n'est-ce pas, de ces gens à former. On les forme pour mener des actions de vigilance. Pour quelqu'un qui est formé déjà, il saura comment s'il va s'y prendre. Comme je vous l'ai dit, parce qu'un beau karam, c'est quelqu'un qu'on peut facilement remarquer, qu'on peut identifier par son comportement, par sa manière de marcher. Dès qu'il est prêt à nuit, on le voit quelqu'un qui n'est pas avec vous. Je dois vous dire que les gens là sont engagés. Tout à l'heure, je vous ai dit que la plupart sont engagés de force. Comme elle a dit, on vient demander ta fille pour épouser un émir. Tu refuses, on t'égorge. Et ça n'empêche qu'on aille avec ta fille. Donc, elle est victime. Les gens là sont tellement engagés qu'un exemple qui s'est passé tout récemment à Menesoroa. Boko Haram ont adopté plusieurs stratégies. Parce que souvent, ils font aussi des prises d'otages, exiger des millions de naira. Ils l'ont fait là, je crois, à Saga. Ils ont pris un infirmier là. Ils ont fait à Issar Brim. Ils ont même pris un otage, un major là. Ils l'ont ramené. Quand vous les voyez attaquer les CSI, c'est qu'ils ont des blessés qu'ils veulent soigner. Ils attaquent des CSI pour saccager, pour prendre des médicaments. Tout récemment, à Mene, ils ont pris deux parrains du président Tanja. Ils ont exigé 4 millions et demi à l'un. Ça a été payé. Et l'autre, suite à une altercation avec les éleveurs, à qui il voulait arracher, du bétail, il a pu s'échapper. Il est revenu à Mene. Ils sont encore revenus. Ils ont tenté de venir le reprendre. Mais c'est la population qui s'est mobilisée. La population, les civils, avec des flèches et des coups, ils ont affronté Boko Haram avec des armes. C'est pour vous dire qu'il suffit de former ces gens-là, de les cibler, de les former. Parce que quelqu'un qui est capable d'affronter un ennemi de Boko Haram armé, lui avec une flèche, mais le jour où il aura une arme, il fera mieux que ça. C'est qu'il est capable même de chercher Boko Haram pour le détruire. C'est pour vous dire que vraiment la population ici, la jeunesse, elle est vraiment engagée. Et nous pensons qu'avec cette lancée, avec cet élan-là d'engagement, je pense qu'on doit certainement chercher à organiser la jeunesse pour que qu'on voilà, continue vraiment efficace, n'est-ce pas, à la lutte contre Boko Haram.
Et pour ajouter à ce qu'a dit M. le SG par rapport aux actions des femmes, donc comme il a relevé cet aspect de rencontre avec les autorités tout récemment, donc là les femmes ont vraiment proposé à ce que les autorités forment des groupes de jeunes pour qu'ils puissent travailler à côté des FDS en tant que comité de vigilance ou de veille, voilà, qui puisse un peu protéger la population civile en tant plein quoi. Et de l'autre côté aussi, les femmes, nous avons demandé à ces autorités de bien vouloir donner main forte sur les prières. Parce que vous savez, les éléments du Boko Haram, c'est là où ils nous ont dévancés. Pourquoi je l'ai dit? Chaque fois qu'ils ont une attaque ou une action à mener, il y a une prière qu'ils font, d'après les informations qu'on a reçues, qui peut prendre 4 heures de temps. Et pourquoi nous, en tant que musulmans, on ne va pas se retourner vers le bon Dieu pour demander, en tout cas, à ce qu'ils nous viennent en aide par rapport à cette situation? Donc, c'est par rapport à cela que nous avons demandé à nos autorités de dégager des journées dans le mois où nous allons faire des prières collectives et des jeûnes pour que nous puissions arriver à la fin de cette heure.
Madame Binta, comment peut-on lutter contre l'enrôlement des femmes et des hommes?
Bon, de manière, ce que j'allais dire, c'est juste de vraiment de sensibiliser, encore continuer à sensibiliser les femmes par rapport à cette question du BH. Parce que jusque-là, je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris l'impact qui est derrière cette affaire de Boko Haram. Donc, c'est tout ce qu'on peut mener pour l'instant. Je n'ai fini.
Bon, moi, je vais ajouter quelque chose. Vraiment, à ce qui concerne l'attaque des nuits passées à Difa, vraiment, même si les forces de défense et de sécurité font de leur mieux, vraiment, c'est pas assez. C'est pas assez, sinon, ils ne peuvent pas infiltrer la nuit et rentrer dans la ville. Les gens qui se sont explosés la nuit dernière, ils sont venus de l'extérieur. ne sont pas de l'intérieur. La preuve en est que l'un des gars du Fokura les a surpris en train de rentrer dans la ville. Donc il les a demandé, Boula, d'où est-ce que vous sortez? Ils ont même commencé à chamailler entre, avant, comment dirais-je, le gars qui est décédé, son âme Kakari. Il a donné sa vie pour protéger la population. On peut dire que c'est un martyr. Parce que vraiment, il a donné. Sinon, leur intention, ce n'est pas d'exploser en ce moment-là. Ils veulent attaquer un lieu là où il y a beaucoup de monde pour mieux ennuyer à la population. Et puis, la nuit à 22h40, c'est à 22h40 qu'ils sont rentrés. Et maintenant, si la ville est sécurisée, ces gens-là, ils ne peuvent pas rentrer. Ils ne peuvent pas rentrer. Parce qu'ils sont venus de la brousse et lui, il sortait de sa maman, comme sa maman vivait à la périphérie de la ville. Donc, il sortait, il les a vus, il les a surpris, il dit que, Boula, d'où est-ce que vous sortez? Qu'est-ce que vous prenez derrière toi? Toi, un homme, qu'est-ce que tu as derrière toi là? Et voir, à ce temps, lui, le monsieur, il s'est senti menacé. Il s'est explosé avec Kakari en même temps. Les deux femmes-là, ils ont fui maintenant pour aller eux-mêmes de leur tour maintenant exploser pour faire des dégâts rapidement. Mais sinon, s'il y a la sécurité, monsieur le SG, vous êtes ici les membres du gouvernement, donc vous représentez les autorités. Vraiment, il faut faire beaucoup d'efforts.
Au sortir de ce forum, on peut retenir que la lutte pour le retour définitif de la paix dans la région de Diffa est une lutte de longue haleine et que les forces de défense et de sécurité, les autorités, les citoyens doivent conjuguer leurs efforts pour ce retour à la paix. À la présentation, c'était Balkis Amidou, à la technique Seyni Isaka. Merci chers invités, merci chers auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou.